Bienvenue sur Galabertiti,
le son du collège.
Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galaberte.
Interviews, articles, chroniques et actualités,
on y parle de tout et n'importe quoi.
Yeah.
Bonjour à tous, nous sommes sur Galabertiti, le son du collège de Radio Escapade. Nous nous retrouvons pour cette dernière chronique radio qui clôturera cette année pendant laquelle nous avons enregistré plusieurs chroniques, que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Escapade.
Tout de suite, nous commençons notre premier sujet de Evan qui s'intitule « Les Easter Eggs dans Google ».
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 5 Easter Eggs dans Google. Pour commencer, un Easter Egg est un terme anglais qui désigne œuf de Pâques. En informatique ou dans les jeux vidéo, un Easter Egg est une fonction cachée amusante au sein d'un programme. Dans Google, par exemple. Premier Easter Egg, si vous tapez « Do a barrel roll » dans votre barre de recherche, votre page va se mettre à tourner. Deuxième Easter Egg, Google Gravity et cliquez dans le premier lien et toute votre page va tomber, puis vous pourrez jouer avec les éléments de la page. Troisième Easter Egg, recherchez Google Sphere et cliquez sur le premier lien et votre page va se mettre à tourner comme une sphère. Quatrième Easter Egg, si jamais vous avez besoin d'un niveau à bulles, alors cherchez niveau à bulles sur votre téléphone et il en deviendra un. Et le dernier, le cinquième Easter Egg, recherchez chat ou chien, n'importe lequel, et cliquez sur la patte dans les informations sur le côté de votre page, puis cliquez n'importe où sur votre page et la patte de l'animal apparaîtra et laissera une trace. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de m'avoir écouté cette année. Au revoir.
Merci beaucoup Evan et nous enchaînons avec Antonin qui va nous parler de
et si Internet disparaissait.
Vous avez une question? Vous demandez à Google. Vous devez envoyer un document à votre collègue, vous lui envoyez un email. Vous voulez voir et discuter avec des personnes loin de vous, vous faites une visio. Vous voulez montrer vos photos de vacances, vous les postez sur les réseaux sociaux. Vous voulez payer vos achats, vous utilisez votre carte bancaire. Et tout ça, ça fonctionne grâce à Internet. Et ce n'est qu'un simple échantillon de toutes les possibilités qu'il nous offre dans notre vie de tous les jours, comme dans des usages plus spécifiques. Autrement dit, de nos jours, on utilise beaucoup, énormément même, Internet. Et pour tout. Mais qu'est-ce qui se passerait si Internet disparaissait? C'est ce que nous allons essayer d'imaginer dans la nouvelle que je vous ai préparée. C'est parti. Il était une fois un Internet qui fonctionnait à merveille. Tout le monde l'utilisait et tout le monde en était content. Sauf quelques nostalgiques ou personnes âgées, pour la plupart, qui ne savaient pas ou mal s'en servir. Oh, bien sûr, il y avait quelques râleurs qui se plaignaient du coût écologique d'Internet. Mais il n'y avait pas que cela. Quelques entreprises qui en ont profité pour devenir des puissances dignes d'État pour certains points. Ces râleurs se plaignaient aussi des suppressions de postes massives que l'automatisation des tâches et l'intelligence artificielle avaient causées. Mais comme finalement tout le monde y trouvait plus ou moins son compte, eh ben, on ne s'en plaignait pas plus que ça. Cet Internet, qui fonctionnait donc très bien, rendait de grands services à l'ensemble de l'humanité. Du moins jusqu'à un certain jour, où un hacker militant pour les causes dont je vous ai parlé à l'instant trouva le moyen de détruire Internet, littéralement. Et devinez grâce à quoi? Un virus informatique, ironiquement nommé SARS-CoV-2.0. Ce virus s'est propagé à une vitesse folle, et même les experts du sujet ont été dépassés par cette menace qui plongea l'infrastructure d'Internet dans une sorte d'hibernation sans fin. En quelques heures, Internet n'était plus rien. Ce fut une horreur partout dans le monde. Pendant de longues années, le confort apporté par Internet n'était qu'un rêve. Le manque fut douloureux, car en effet, plus de paiements avec la carte bancaire qui fonctionnait grâce à Internet, avec l'essentiel des transits d'argent internationaux bloqués. Les circulations mondiales en furent très perturbées, notamment pour les avions et les bateaux. Évidemment, toutes les entreprises qui tiraient la plupart de leurs bénéfices d'activités qu'elles exerçaient sur Internet firent faillite, avec au passage des tonnes de personnes qui se retrouvèrent sans emploi. et bien plus encore, comme de nombreux aspects administratifs. Mais ce qui manquait aussi, c'était tous les petits conforts du quotidien, comme la recherche qui permet d'obtenir l'information que l'on cherche en quelques secondes, le GPS, les soirées passées à regarder diverses séries et films dans un catalogue quasi illimité, les informations sur le monde en temps réel. Suite à cela, les grandes fortunes mondiales ont alors tenté de créer un nouvel Internet pour essayer d'aider les gens à revenir au bon vieux temps d'avant, mais aussi et surtout pour essayer de sauver leur business. Ce nouvel Internet leur appartiendrait, mais serait en conséquence extrêmement libéral et après quelques années de recherche des meilleurs ingénieurs, de tests puis de développement à grande échelle, tout allait être enfin prêt. Le GammaNet, le nouveau nom d'Internet donné en hommage aux géants du web qui avaient investi tout l'argent qui leur restait, et presque tout recréé comme avant dans ce nouvel Internet, allait enfin être inauguré avec de toutes nouvelles fonctionnalités et évidemment cette fois un système de cybersécurité infaillible pour éviter de replonger dans ce cauchemar. Mais il coûtait aussi désormais un prix exorbitant que seules les personnes parmi les 5% les plus riches du monde pouvaient s'offrir, selon les économistes. Alors, ces 5% se sont rués dessus et ont enfin pu en profiter. Quelle joie de bénéficier enfin de cette technologie qui leur avait tant manqué. Mais ce bonheur fut de courte durée, car les 95% de la population pour qui le GammaNet était trop cher se révoltèrent, ou plutôt en fait 45% se révoltèrent, car seule la moitié de l'humanité avait accès à Internet. Ces révoltes, parfois sauvages, ont pour certaines cassé les infrastructures du GammaNet, le rendant inaccessible. Les réparations auraient coûté tellement cher au GammaM qu'ils abandonnèrent le projet et ils firent faillite au passage. Pour revenir au quotidien des personnes comme vous et moi, eh bien, on finit par s'adapter. Et l'on fit sans Internet, car les gens retournèrent aux livres, aux journaux, aux cartes, aux DVD, etc. Et quand on voulait chercher des choses, on utilisait une encyclopédie. Bref, un petit peu tout comme il y a une petite trentaine d'années. On s'adapta donc et l'on arriva à vivre sans Internet. De plus, les nombreux problèmes liés à Internet devinrent du passé. Bon, après cette fiction, je vous propose maintenant de revenir dans notre monde, en vous précisant tout de même que des garde-fous sont là pour prévenir ce scénario catastrophe, même si l'on n'est évidemment pas entièrement à l'abri de tout cela. Pour finir, on va parler des points problématiques que j'ai énoncés au cours de cette histoire. Tout d'abord, il y a le problème de la fracture numérique, qui en France touchait 17% des gens en 2019, selon l'INSEE, soit une personne sur six. Pour rappel, la fracture numérique, c'est le fait de se sentir exclu ou en difficulté avec les usages du numérique. De plus, la moitié de la population mondiale n'a pas accès à Internet. Il y a aussi le problème de la suprématie économique sur Internet américain et européen des GAFAM, anciennement appelés GAFAM, ce qui correspond à l'acronyme des entreprises Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, qui dominent le monde des nouvelles technologies. Ces entreprises posent problème pour leur non-respect de la vie privée, de leurs utilisateurs, et leur régulier abus de position dominante, mais aussi pour leur pratique intensive de l'optimisation fiscale. Ils ont de plus un grand pouvoir politique, car ils ont un haut degré de contrôle sur la communication. Ils peuvent par exemple favoriser un courant politique plutôt qu'un autre. Un autre de ces problèmes est que l'intelligence artificielle menace certains postes et en a même déjà supprimé certains. En effet, l'entreprise de stockage en ligne Dropbox a licencié 16% de ses employés en avril dernier, car son utilisation a augmenté considérablement la productivité humaine, et cela demande donc moins de main-d'œuvre. Enfin, le numérique a un coût écologique extrêmement important, il pollue autant que tout le secteur aérien. Voilà, cette chronique est terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu.
Merci Antonin.
Nous accueillons maintenant Awakuti, qui va nous parler du harcèlement scolaire.
Bonjour, je suis Awakuti, et aujourd'hui je vous parle d'un sujet très grave, le harcèlement scolaire. Comme vous le savez, ce phénomène touche beaucoup d'enfants et d'adolescents. Beaucoup d'élèves se suicident, comme Lindsay, une adolescente récemment retrouvée morte à son domicile. Lucas, également victime de harcèlement homophobe, retrouvé mort près de son domicile. Dans le harcèlement, il y a quand même plusieurs sortes, comme le harcèlement homophobique, meurtrier, violent, etc. Beaucoup de personnes n'en parlent pas parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre, mais c'est faux. Il faut en parler plutôt que de penser que le suicide est la meilleure des solutions. Les enfants très jeunes ne pensent pas vraiment au fait de se suicider, mais c'est plus vers 8-9 ans qu'ils commencent à douter de ce qu'ils doivent faire. Pour réaliser cette chronique, j'ai regardé beaucoup de courts-métrages et de témoignages. J'ai entendu et vu plein de choses horribles. J'ai fait cette chronique car ce sujet me touche beaucoup et que j'ai un message à passer aux victimes. S'il vous plaît, ne restez pas dans le silence et parlez-en ou appelez le 3114. Et voilà, c'était Awa Kouti sur Galabert City, le son du collège, pour la dernière mission de l'année. Au revoir.
Merci, et cela vous arrive, n'oubliez surtout pas d'en parler. Vous allez à présent entendre Enfer de Stromae. Et...
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Toujours sur Galabert City, le son du collège, sur Radio Escapade.
Et maintenant, nous allons entendre Jeanne qui va nous parler du mégalodon.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du plus grand requin que la Terre ait jamais porté. C'est le mégalodon, ce terrible prédateur mesuré entre 15 et 20 mètres de longueur pour 40 à 60 tonnes. Il a disparu entre 23 et 3,6 millions d'années. Mégalodon signifie « grande dent », car en effet ses dents mesuraient 20 cm. Ce requin possède 150 dents disposées sur 3 rangées. Un homme adulte de taille moyenne peut entrer dans sa mâchoire. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la cause de sa disparition. Certains chercheurs pensent que c'est la concurrence d'un autre grand prédateur, comme la baleine tueuse. D'autres supposent que c'est parce que le mégalodon pouvait de moins en moins se nourrir, les grosses proies se faisaient rares, et ne pouvant reprendre des forces, il a pu avoir recours au cannibalisme et ça aurait été la cause de son extinction. Ou alors la température de l'eau aurait monté et le mégalodon ne pouvant s'adapter à la chaleur aurait disparu. Certaines personnes pensent encore cependant que le requin est encore en vie dans la fosse des Mariannes. Étant donné la taille de la fosse des Mariannes, la profondeur de 11 km, plus de 2500 m de long et 70 km de large, il est tout à fait possible que le mégalodon vit encore là-dedans. Mais qu'en est-il de la nourriture? Dans cet endroit qui est le plus profond de la Terre, il y a seulement 3 personnes qui y sont allées. ils ont vu plusieurs petits mollusques, des pieuvres, méduses et autres petits poissons. Mais c'est-il assez pour le mégalodon ? Il lui en faudrait manger énormément, mais s'il a une quantité suffisante, il devrait normalement pouvoir survivre. Cependant, il reste encore un problème à son existence potentiellement actuelle. Pourrait-il se reproduire ? Il faudrait un mâle et une femelle pour qu'ils aient des petits et ainsi de suite. Cependant, il ne faudrait pas que les mégalodons aient par exemple deux mâles ou deux femelles, car ils ne pourraient pas se reproduire. En tout cas, les scientifiques pensent que le requin est éteint, mais moi je crois qu'il est possible qu'il soit encore en vie. Et toi, t'en penses quoi ? Moi, je crois que c'est la fin et j'espère que cette chronique vous a plu. Au revoir.
Merci Jeanne pour cet exposé très intéressant sur le mégalodon. C'est maintenant au tour de Lucette, Elina et Alice qui vont nous parler du cinquième continent.
Le septième continent, un monstre de plastique. Bonjour tout le monde, aujourd'hui Lucette, Alice et moi-même Elina, on va vous parler du septième continent.
Le septième continent est une île constituée de plastique et de déchets.
Au moins 1800 milliards de déchets plastiques polluent les océans. Au fil des années, ils se sont agglomérés en une monstrueuse masse qui ne cesse de s'étendre en plein Pacifique.
L'île est constituée par exemple de bidons, de filets de pêche, de canettes, etc.
Elle a été découverte en 1997. Elle faisait environ 1,6 million de kilomètres carrés, plus que la France, l'Allemagne et l'Espagne réunies.
Cette île est située au nord-est de l'océan Pacifique, entre les côtes d'Hawaï et l'Amérique du Nord.
En mai 2014, une équipe de marins et de scientifiques sont partis en expédition pour étudier ce septième continent, un gigantesque tourbillon de déchets plastiques dont nous sommes tous responsables.
Beaucoup d'animaux marins sont morts à cause de tous ces déchets.
Les tortues mangent les sacs plastiques en les confondant avec des méduses et s'étouffent.
Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100.
L'île de plastique menace l'équilibre des écosystèmes marins. Benoît Lecomte est un nageur de longue distance français. Il a réussi à franchir ce continent et a passé 80 jours en travail à la Californie avec son équipe. Il a collecté 45 000 fragments de microplastiques.
Les poissons restent coincés dans les bouteilles et d'autres objets. On a décidé de parler de ce sujet car on trouve ça vraiment triste et on voulait vous sensibiliser à ne pas jeter vos déchets dans la nature.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Eh bien, je trouve ça très inquiétant.
Maintenant, place à la pause musicale, c'est Tahiti de Kinvé.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti.
Je suis prêt.
c'est encore Galabercity, le son du collège.
Et pour finir, c'est Louise et moi-même qui allons vous présenter notre chronique sur le chocolat. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre dernière chronique radio qui s'intitule
L'histoire du chocolat.
Bonjour Louise, comment vas-tu?
Je vais bien et toi?
Je vais bien, merci.
Alors, le chocolat est créé à base de fèves de cacao, mais dis-moi, qui a commencé à les utiliser?
C'est de 1100 à 1400 avant Jésus-Christ en Amérique centrale que les Aztèques et les Mayas ont commencé à utiliser les fèves de cacao.
Eh ben dis donc, les fèves de cacao ne sont pas toutes jeunes.
Oui, en effet, et le chocolat qu'on connaît a été inventé bien plus tard. Mais je ne saurais vous dire la date exacte. La connais-tu, Louise?
Oui, c'est en 1847 que la première tablette de chocolat voit le jour. Peu après, en 1875, la première tablette de chocolat au lait a été mise sur le marché. Mais c'est bien après, en 1930, que le chocolat blanc sera produit.
Alors les tablettes de chocolat sont consommées depuis longtemps, mais quel est leur pays le plus consommateur?
Eh bien, c'est la Suisse, avec ses 9 kilos de chocolat par an, qui est le pays le plus consommateur. Mais alors, quelle est la période de l'année? Pendant quelle période de l'année le chocolat est-il le plus consommé en France?
Et figurez-vous que c'est Pâques qui a la deuxième place. C'est en effet Noël qui a la première place avec 8,5 de vente annuelle.
Je ne m'y attendais pas.
En tout cas, je suis contente d'en avoir appris un peu plus sur cet aliment que j'apprécie beaucoup.
Et oui, comme vous l'aurez compris, nous sommes des adeptes du chocolat et nous sommes ravis de vous avoir partagé nos nouvelles connaissances.
C'était Charline et Louise de l'émission Galabercity, le son du collège sur Radio Escapade. Bonne continuation et au revoir.
Maintenant, vous allez attendre la pause musicale de Chocacao.
En chantant ces terres-là, 1, 2, 3, chaud.
C'était la dernière émission de l'année, on espère que ça vous aura plu.
Et avant de partir, nous voulons remercier Radio Escapade qui nous a permis de publier nos chroniques radio et sur nous enregistrons sur ce studio même.
Nous tenons aussi à remercier le technicien qui s'est occupé de nos micros.
Et pour finir, Madame Préjani et Madame Laville qui nous ont permis de faire le club média.
On espère que ces chroniques radio tout au long de l'année vous auront plu et puis à la prochaine.
Ciao!
Au revoir.
Le son du collège.
Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galaberte.
On y parle de tout et n'importe quoi.
Retrouvez-nous sur www.radioescapade.org.